Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Jean-François Lisée.
On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, Jean-François, est-ce qu'on peut dire que c'est une journée noire pour la démocratie au Québec de voir le PQ comme ça, vraiment, qui s'est fait enfirouaper par les libéraux, les solidaires et les caquistes?
Ben, non seulement le PQ, mais le Parti conservateur aussi. Oui. Là, on a 500 000 de personnes qui ont voté conservateur et qui n'ont aucun accès à l'Assemblée nationale pour l'instant. On a 500 000 de personnes qui ont voté PQ et qui ont... je vais te donner le résultat des courses. Là. Un électeur libéral génère 10 fois plus de budget pour son parti et 10 fois plus de questions que le PQ. Et évidemment, c'est zéro pour... alors, de 10, tu sais, on appelle ça quintuplé. Alors, un vote a 10 fois plus de budget, 10 fois plus de questions qu'un autre vote. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on parle de ces règles-là comme si elles étaient... comme si Moïse qui avait descendu du Sinaï avec la règle du 12 députés, 20%. C'était pas Moïse. C'est Robert Bourassa devant une situation nouvelle qui a proposé de changer les règles pour s'adapter. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a 4 partis d'opposition qui ont à peu près 15% du vote. Et tu sais que je ne suis pas un grand fan de Robert Bourassa, là. Mais là, je m'ennuie. Parce que ni François Legault, ni Gabriel Nadeau-Dubois, ni Marc Tanguay n'ont eu la hauteur de vue de dire, écoutez, c'est sûr que le PLQ a un avantage si l'opposition officielle, il y a plus de députés. C'est sûr que QS a un avantage avec 15% du vote, ils ont eu 11 députés. Et ça, on va garder cet avantage-là. Mais pour les budgets puis le temps de parole, on va faire comme Robert Bourassa, puis on va dire, on va le partager plus en fonction du vote. Et moi, j'ai écrit dans Le Devoir il y a quelques semaines, rien n'interdit à l'Assemblée nationale de désigner, d'ajouter une banquette, puis de dire qu'Éric Duhaime est un député honoraire. Rien n'interdit ça. Et monsieur Legault, pendant la campagne électorale, a parlé de la cohésion sociale, comment c'était important. Ben là, ils viennent dire à 1 million d'électeurs, dont 500 000 électeurs conservateurs, je m'en fous de votre vote. Je m'en fous. Alors, imagine la marginalisation programmée par François Legault et les deux autres partis face à ces électeurs-là. Moi, aujourd'hui, tu as raison, c'est une journée très noire pour la démocratie.
Tom?
Moi, j'y vais directement sur la question des recours. Parce que lorsqu'il y a une injustice, normalement, on peut s'adresser aux tribunaux. Or, jusqu'à il y a quelques années à peine, les tribunaux acceptaient, lorsqu'il s'agit d'une décision dans l'intérêt public, au terme d'une législation, on pouvait avoir recours pour une révision judiciaire. Or, la Cour suprême, dorénavant, est catégorique. Si ce n'est pas une décision gouvernementale de l'État, on met pas le nez là-dedans. Donc, le problème, c'est qu'on a un cartel avec des sièges qui est en train de s'auto-gouverner dans leur propre intérêt. Le conflit d'intérêts est manifeste et patent. Et c'est un problème de base de justice. Je partage pas le point de vue de Jean-François lorsqu'il dit que Duhaime pourrait être député honoraire. Non, parce qu'il y a pas gagné ces élections. Puis si on commence ça, on finit où? Bien que, juste pour le rassurer, je vais lui dire qu'il y a un précédent en sa faveur. C'était au fédéral. Et c'était un député NPD de très, très longue date qui, vers la fin de sa carrière, si ma mémoire est bonne, c'était soit Trudeau père, soit Mulroney, mais je pense que c'était plutôt Trudeau père, qui lui a fait un siège honoraire, puis il avait le droit d'assister puis prendre des notes lors des séances. Bon, c'est pas complètement saugrenu comme idée, mais je partage pas le point de vue parce que gagner veut dire quand même quelque chose. Mais gagner dans quel système? Ça, c'est la vraie question. Notre système dit uninominal à un tour que personne comprend. Quand on le dit en anglais, first past the post, pense à une course de cheval. Le cheval dont le nez pointe la ligne d'arrivée en premier, même si c'est avec 23 % dans ton comté, puis les autres ont 22, ben là, peu importe. Puis même quand ton parti à peine à avoir 32, 34 % comme Trudeau, ben, il a 100 % du pouvoir, surtout grâce à Jagmeet Singh. Donc, il y a des inégalités, il y a des incohérences. On se targue d'être une démocratie. La démocratie va commencer le jour où le Parti Québec va avoir une reconnaissance méritée du nombre de questions et des budgets. Et moi, je suis abasourdi. Et je le dis avec un sourire. Personne ne soupçonne que j'ai des accointances idéologiques avec le Parti québécois. Donc, peut-être ça donne un petit peu plus de force lorsque je dis que c'est totalement injuste ce qui a été décidé par le cartel des autres partis.
J'adore ton expression, Tom, un cartel. Je trouve que l'expression est juste. Et puis, qui ont décidé, eux autres, de se gouverner de telle façon. Comme tu dis, ils sont juges et partis.
C'est comme si c'était un club de bridge. Comme si c'était le country club de l'Assemblée nationale. Puis ils se prennent des décisions entre eux autres. Non, c'est le fondement même de notre démocratie. Puis le public est en train de jeter un œil très critique sur ce que vous faites.
C'est pas le club de Boulingrin de Westmount.
Richard, si tu me permets. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que, on avait quand même établi, Tom, moi, à la joute, au mordu, dans les journaux, que, en tout cas, si le PQ avait pas une question par jour, c'était honteux. Ça avait été établi la semaine dernière. C'est que moi, je me suis dit, imagine, si Marc Tanguay décide d'en donner une, parce qu'il en manque une, c'est deux par semaine au lieu de trois par semaine, il y a trois périodes de questions par semaine. Si Marc Tanguay en donne une, on va dire, bon, OK, Marc Tanguay est magnanime, bravo. Si Nadeau-Dubois en avait donné une, on aurait dit, waouh, il est solidaire, bravo. Et il le savait, ça, que juste en donnant une question, une de leurs nombreuses questions par jour, il serait le Père Noël du Parti québécois. Ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé de prendre le crédit politique de partager. Alors, ça veut dire qu'ils étaient tellement déterminés à enlever de l'oxygène au Parti québécois qu'ils ne voulaient même pas avoir une bonne journée média d'applaudissements. C'est fort.
C'est très fort. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal pour demain concernant le fameux serment? PSPP était avec Philippe-Vincent Foisy. Il a dit tout est sur la table. Bon, il semble maintenant envisager peut-être de prêter serment pour pouvoir entrer en chambre. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
C'est tellement difficile parce que d'un côté, t'as envie de voir enfin un parti politique se tenir debout une fois qu'il a exprimé un grand principe. D'un autre côté, s'ils essaient de financer ça, admettons, on va faire assermenter Joël Arsenault, comme ça on aurait une voix, puis les deux autres vont attendre. À un moment donné, il faut soit être conséquent et clair avec ses principes et juste dire non, on rentre pas tant que c'est pas réglé. Puis, Jolin Barrette, là, se trouve bien smart, comme d'habitude. Hein? Ah, il fait son frais. Et il dit non, ça va prendre du temps. Hey, ça pourrait se régler un, deux, trois par une motion, mais c'est sûr qu'il lui veut faire durer le plaisir avec le Parti québécois. Moi, si j'étais le proche conseiller de PSPP, je lui dirais, tu rentres pas. Tu peux te mettre à la porte, fais la photo. Non, tu varges pas. Non, tu touches pas à la sergente d'armes, mais tu arrives à la porte. Les gens vont comprendre que tu es bloqué de prendre ton siège sur une question de principe. Parce que soit c'est une question de principe, soit ça ne l'est pas. Puis s'ils posent des armes là-dessus, je pense qu'ils perdent beaucoup.
Jean-François.
Oui, ben je pense qu'ils ont des options. En tout cas, ils savent comment maintenir le suspense là. Hein? Donc, ils ont fait des annonces hier à Drummondville. Là, c'était leur post-mortem où ils ont dit qu'il y a une quinzaine d'anciens candidats qui vont venir, qui vont être dans les régions, puis qui vont venir à l'Assemblée au point de presse du matin sur différentes questions. Mais que pour le serment, écoute, c'est demain là que ça recommence. Ils veulent pas nous dire jusqu'à ce matin. Donc, PSPP a donné des entrevues. Il dit rien. Fait qu'ils préparent quelque chose. Maintenant, moi, j'ai l'impression qu'ils ont une marge de manœuvre parce que Joël Arsenault et Pascal Bérubé, ils ont déjà prêté serment dans le passé. Celui qui a jamais prêté serment, c'est PSPP. Alors, il pourrait y avoir une distinction entre les deux pour en avoir à l'intérieur puis en avoir à l'extérieur. Peut-être qu'ils vont jouer ça. Quand est-ce qu'ils vont le faire? Comment ils vont le faire? En tout cas, pour un parti qui s'est fait enlever de l'oxygène, je trouve qu'ils s'organisent pour prendre pas mal de place.
C'est bien, mais il va falloir qu'ils songent aussi à l'après. Parce que c'est vrai, par exemple, Québec solidaire hier, moi j'appelais ça la technique Russell Williams, du nom d'un ancien député du West Island que je connaissais bien. Lui, il faisait toujours une conférence de presse quand on était dans l'opposition, il faisait dans son champ de porte-parole, il faisait ça toujours le dimanche parce qu'il n'y avait pas de presse, puis c'était dans les journaux le lendemain. Moi, j'ai admiré la technique de Québec solidaire. On amène Manon Massé, on amène Gabriel Nadeau-Dubois, puis ils annoncent que il faudrait, vu qu'on est dans un temps d'inflation importante, on va ajuster deux fois par année. C'est simple comme tout, ça se fait en appuyant un bouton dans le système du gouvernement, et les gens disent, c'est vrai que pourquoi j'attendrais si j'ai 7% de plus de dépenses, donne-moi un 3,5% après 6 mois, puis un autre après. Ça, c'est du bon PR, ça c'est de la bonne politique, ça c'est savoir aussi se faire parler d'eux-mêmes. Le mystère le plus total pour moi, puisque je viens d'évoquer Russell, qui était un ancien député du Parti libéral, qui a appuyé snooze sur le bouton du réveil matin de Marc Tanguay. C'est comme, where are you guys? Allô, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Il se passe-tu quelque chose avec votre groupe parlementaire? Crickets, tu sais, pas oui. Une ligne dans les médias ce matin. Ça, c'est navrant. Parce que ça veut dire que l'opposition officielle n'est même pas là. Moi, je me souviens quand l'élection partielle a été lancée dans Outremont, que j'ai fini par gagner avec Jack Layton pour entrer au Parlement fédéral. Ma proche collaboratrice qui faisait des médias pour moi depuis des années, elle dit, je m'excuse, je sais que c'est samedi, mais ils viennent de dire la date de l'élection partielle. On va aller faire une ronde média à Montréal. Je t'organise ça. Je te retrouve sur le perron de la porte de Radio-Can. Et moi, j'étais avec des invités. On venait d'avoir un mariage, mais on s'habille, on va à Montréal, on fait la ronde média. Et je me suis aperçu qu'aucun des autres candidats, ni le libéral, ni le conservateur, ni le bloquiste, s'était présenté. Aucune ligne média. Moi, les investissements qu'on avait faits et les enregistrements ont duré 2 jours et demi. Donc, lorsqu'on comprend le game, on est présent. On paraît qu'une politique de présence. L'absence totale des libéraux dit tellement long sur leur absence totale de planification et de compréhension du rôle.
On va aller maintenant sur la scène fédérale. Jean-François Justin Trudeau qui a témoigné à la commission sur les mesures d'urgence. Est-ce que c'était 50% en français, 50% en anglais?
Non. Là, il faut admettre qu'il a été vraiment, je pense que Hélène Buzetti a calculé ses 5 ou 6 % en français. Il a fait une partie de son introduction en français. Puis ensuite, toutes les questions de tous les avocats ont été posées en anglais. Alors, il a choisi de répondre en anglais. Écoute, Justin Trudeau a fait son éducation en français. Il est allé à Brébeuf en français. Mais on sent bien, lorsqu'on l'entend dans les deux langues, qu'il réfléchit en anglais. Il est plus à l'aise en anglais. Ce qui n'était pas le cas de son père. Son père était quand même plus à l'aise en français et à l'écrit, il écrivait mieux en français qu'en anglais. Il était presque parfaitement bilingue, mais on sentait cette différence. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus... Bon, il y a eu une bonne performance, mais la question clé, c'est pour passer le seuil de nécessité de cette loi... Il fallait que vous soyez convaincu qu'il y avait un problème de sécurité nationale. Vous l'avez été parce qu'il y a un avis juridique qui vous a été présenté. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'avis juridique? Il n'a même pas pu répondre. Son avocate a dit non, on ne peut pas parler de ça. Alors, lui avait la capacité, c'est le patron de l'avocate. T'sais. Il aurait pu dire, un instant, moi, c'est moi qui embauche l'avocate, mais moi, maintenant, je donne la directive de montrer l'avis juridique, mais il est resté muet, puis on verra jamais cet avis juridique-là, qui est un élément clé, finalement, du puzzle.
Mais tout à fait.
Ça, c'est les avis juridiques mystères de David Lametti. Parce que n'oublie pas, Jody Wilson-Raybould était du genre à se tenir debout quand on essayait de forcer. Et quand elle est partie, puis ils ont vécu ça, ils ont dit, trouve-moi un avocat au sein du caucus qui va toujours dire, oui, patron. La Mati, viens ici, on va te causer un petit peu. La Mati a dit la même chose sur un avis juridique mystère que personne n'a jamais vu, sur la modification unilatérale de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Ça intéresse beaucoup de gens, notamment dans la communauté anglophone ici à Montréal. À rien. Des criquets, encore une fois. Donc, oui, j'ai l'impression qu'on est face à une situation où le gouvernement se cache derrière un truc inexistant. Mais l'attitude que moi j'ai vue, j'ai l'habitude de regarder ça comme avocat, le juge Rouleau semblait satisfait de ce qu'il entendait de Trudeau. Et si j'avais été l'avocat qui avait préparé Trudeau, j'aurais été très satisfait de son témoignage. Il a utilisé un langage clair, convaincant, simple. Et le truc qui rend les journalistes et les observateurs dingues, et à la période des questions, et dans ses conférences de presse où il répond toujours à côté de la question, pas du tout. Cette fois-ci, c'était direct. Et il a quand même dit une chose. Il a dit, je veux bien que le SCRS avait son interprétation, sa loi, mais c'était à moi de prendre une décision comme premier ministre sur la sécurité des gens. Il dit, j'avais des gens qui utilisaient des véhicules comme armes à la frontière en Alberta. J'avais le plus important traversé de la frontière Ontario-États-Unis qui était bloqué, et j'avais des gens dont la vie était misérable parce que personne... il était délicat, mais il a quand même été très clair de la police d'Ottawa complètement foirée à la tâche. Donc, je pense que l'un dans l'autre, le Rouleau va conclure que la loi a besoin d'être mise à jour. Et pensez-y une seconde. Cette loi sur l'urgence nationale a été écrite avant le 11 septembre. On se comprend, là? C'est complètement une autre paire de manches aujourd'hui avec les médias sociaux, avec la sorte de menace qui peut exister. Donc, ça doit être révisé. Mais je pense que ça va être ça, la porte de sortie de Rouleau. Il va dire, à la limite, on va dire que c'était correct, mais il faut refaire la loi.
Et en terminant, Jean-François, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi ça, Lametti est ministre de la Justice. Il va témoigner, mais il est aussi l'avocat du gouvernement. Donc, on lui demande, est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que vous saviez? Et là, on pose la question au ministre de la Justice, qu'est-ce que vous saviez? Et là, c'est l'avocat du gouvernement qui répond en disant, je peux pas tout vous dire parce que il y a quand même le privilège entre son avocat et son client. Donc, mais c'était d'un ridicule consommé, cette situation-là.
Oui, évidemment, c'est comme dans un confessionnal, mais si Dieu accepte de révéler les secrets du confessionnal, tu peux le révéler. Dans ce cas-ci, Dieu, c'est le premier ministre Trudeau. Alors, c'est comme si c'est hors de notre contrôle. Moi, je voudrais vous le dire, mais je peux pas. Ben, t'as juste à demander à ton patron de te libérer de la confidentialité.
Ben oui.
C'est ça le genre de logique circulaire qui essaie de nous imposer. Dans l'affaire Wilson-Raybould, ils avaient accepté de nous montrer, enfin de montrer aux gens qui étudiaient le truc, la partie des débats au Conseil des ministres concernant SNC-Lavalin. Donc, ils ont la capacité de le faire. La loi, en fait, leur indique que c'est important, mais ils décident de ne pas le faire. Alors, moi, je reste sur ma faim.
Non, mais t'as tout à fait raison de souligner le ridicule de la situation. Parce qu'effectivement, oui. le privilège n'appartient pas à l'avocat. Le privilège appartient au client. On parle de solicitor-client privilege, mais c'est le privilège du client. Le client, c'est Trudeau. Et il n'y avait rien qui l'empêchait. Mais ce que j'entends à travers les branches, c'est que l'avis juridique, et je suis en train de faire des guillemets dans les airs, là, le fameux avis juridique aurait été donné verbalement. Hop là, il n'y aurait même pas de trace. Alors, voilà.
Alors, vraiment une situation très absurde. Merci à vous deux, on se reparle demain.
Salut.
Bonne journée.
Bye.
Merci, bye.